Vous écoutez On lit pour vous.
Nos fins du monde. Un texte de Rosémée Autonne T. Morin, paru le 4 février 2024 dans La Presse. C'est la fin du monde à tous les jours, chante Lou Adrianne Cassidy. Elle n'a pas tort. Au-delà des petits renoncements et des peines banales, il y a ces guerres et cette crise climatique et ces menaces planétaires. Chaque jour. On a beau être optimiste, on lit La Presse en se réveillant et on se rappelle qu'on est à 90 secondes de l'apocalypse. C'est écrit dans le journal. Les tendances continuent de pointer de façon inquiétante vers une catastrophe mondiale. La débarque plane, on le sent. Reste à savoir si elle sera économique, politique, climatique, pandémique, ou tout ça à la fois. Alors, on fait quoi? Dans mon arsenal d'outils d'évasion, il y a la fiction. Et dans les derniers mois, j'ai justement consommé un nombre disproportionné de récits sur l'apocalypse. Le monde après nous. The Last of Us. Station Eleven. Last Light. Si je me fie au succès de ces œuvres, et autres Silo ou La Servante écarlate, je ne suis pas la seule qui profite de ses temps libres pour plonger dans des dystopies. Est-ce qu'on fuit vers l'avant? Je pense qu'il y a un côté un peu fantasmatique là-dedans. Ce qui recoupe la plupart des films apocalyptiques, c'est l'idée qu'on perd nos repères et que les lois n'existent plus. Ça répond à une espèce de fantasme de voir le monde auquel on est habitué à ne plus fonctionner et, de par cette dysfonction, trouver un nouveau sens à la vie, dit Richard Bégin. Ce professeur de cinéma à l'Université de Montréal aime se pencher sur la question du désastre. Pour lui, il y a dans ce thème l'idée attirante de faire table rase. Marie-Ève Thuot parle, quant à elle, d'une tension entre angoisse et espérance. L'autrice du formidable roman « La trajectoire des confettis » a voué son doctorat en littérature au récit de fin du monde. Dans le cadre de ses recherches, elle a été marquée par l'idée de Kant selon laquelle on s'attend à la fin du monde quand on sent que le dit monde est injuste et qu'il ne mérite pas de durer d'une telle manière. Fantasmer la fin d'un système pour en faire naître un plus juste, voilà une réponse logique à nos temps fous, quoique le réflexe ne date pas d'hier. Richard Bégin me fait remarquer que le film catastrophe s'adapte à toute époque. Les technologies modernes ont angoissé les spectateurs des années 1960. L'apocalypse nucléaire a traversé les années 1980 et les zombies, synonyme de la perte de repères symboliques dans nos sociétés, ont dévoré la décennie 1990. Selon le chercheur et compositeur, qui s'inspire de la catastrophe dans ses pièces Dark Ambient, les récits de fin du monde nous en apprennent beaucoup sur la relation entre l'humain et son milieu. On nous met en plein visage ce qu'on risque de perdre et le fait que ce qu'on croit être permanent ne l'est pas. C'est pourquoi on a aujourd'hui droit à l'apocalypse médiatique dans des films tels que « Leave the World Behind », où nos canaux de communication sont pris en otage. D'ailleurs, je me demande si je ne regarde pas tout ça pour acquérir un certain savoir qui s'est perdu au fil des générations, pour avoir une idée d'où me cacher en forêt et de la manière dont on trappe un animal sans avoir recours à l'Internet. En même temps, j'ai une très mauvaise coordination et un piètre sens de l'orientation. Il n'y a pas un seul film qui va me permettre d'être parmi les rares humains survivant à une catastrophe, Internet ou non. Je devrais peut-être me rallier à la théorie de Marie-Ève Thuot qui voit plutôt dans notre soif de récit apocalyptique une quête de sens. si c'était jadis les textes religieux qui nous aidaient à imaginer nos fins du monde, disons qu'on a pas mal perdu le réflexe de se pencher sur des mythes pour comprendre ce qui nous attend. Je pense que les films et les romans de fin du monde remplissent ce besoin de se représenter des catastrophes, mais aussi d'y trouver un certain sens. La plupart des récits ne montrent pas une destruction totale du monde. On voit des humains en lutte pour rebâtir les choses. Il y a toujours un espoir, selon Marie-Ève Thuot. L'espoir se cache peut-être même dans le simple intérêt qu'on porte à ce genre d'œuvre. Marie-Ève Thuot cite le philosophe Jean-Pierre Dupuis et sa notion de catastrophisme éclairé. Pour lui, la fin du monde est inévitable, mais le fait de se représenter des choses si atroces peut aussi agir comme repoussoir et éveiller les consciences. J'aime bien l'idée, mais bon, je l'écrivais plus tôt, je suis une optimiste. C'était « Nos fins du monde », un texte de Rose-Aimée, Automne T. Morin, paru le 4 février 2024, dans La Presse.
La ruée minière au 21e siècle, le mensonge de la transition énergétique. Un texte de Roxane Léouzon, paru le 5 février 2024 dans Le Devoir. La transition énergétique telle qu'elle est promue par les entreprises, les institutions et les gouvernements partout dans le monde repose sur l'extraction d'une quantité abyssale de métaux. C'est ce paradoxe que décortique la journaliste et philosophe Célia Izoard dans son essai intitulé « La ruée minière au 21e siècle » paru en février 2024 au Québec aux éditions de la Rue d'Orion. Pour régler le plus important problème écologique de tous les temps, on a recours à l'industrie la plus polluante que l'on connaisse, résume l'autrice en visioconférence avec Le Devoir depuis son domicile situé en pleine campagne dans le sud-ouest de la France. Cette dernière examine depuis plusieurs années les impacts sociaux et écologiques des nouvelles technologies. Elle a notamment publié un livre sur la vie des ouvriers de l'entreprise chinoise Foxconn, le plus grand fabricant de produits électroniques au monde. Ironiquement, nos outils numériques font défaut au cours de l'entrevue, si bien que nous devons poursuivre la discussion par le biais d'une bonne vieille ligne téléphonique résidentielle. Les métaux ont beau être de plus en plus présents dans les objets qui nous entourent, dont les multiples écrans, l'industrie minière fait très peu partie de l'imaginaire collectif actuel, explique Mme Izoard d'un ton posé et réfléchi. Je croise tous les jours des gens qui me disent « Ah bon, je ne savais pas que notre système reposait encore sur la mine. » Ça me conforte dans l'idée que c'était utile de faire cette enquête. Notre système n'a jamais autant reposé sur l'extraction minière qu'aujourd'hui. L'extraction de métaux a déjà doublé en 20 ans et elle n'est pas en voie de s'amenuiser, puisque les énergies dites « renouvelables », des batteries pour voitures électriques aux panneaux solaires en passant par les éoliennes, en dépendent. Elle est susceptible d'augmenter de 5 à 10 fois d'ici à 2050, selon une évaluation de l'Agence internationale de l'énergie. Électrifier le parc automobile français nécessiterait toute la production annuelle de cobalt dans le monde et deux fois plus que la production annuelle de lithium dans le monde. Donc, soit cette transition prendra beaucoup trop longtemps et ne freinera pas le réchauffement climatique, soit elle se fera dans la plus grande violence et une destruction incroyable, rapporte l'autrice. On bascule d'une forme d'extraction, du pétrole à une autre, des métaux. Cela n'a pas plus de sens que d'essayer de venir à bout de la toxicomanie en remplaçant une addiction par une autre, juge-t-elle. Une justification officielle. les pouvoirs publics ne semblent pas y voir de problème. Ils font largement la promotion de cette ruée minière, promettant le développement de mines responsables. La transition est la nouvelle excuse pour justifier pratiquement tous les projets miniers. Une mine de cuivre est devenue miraculeusement une mine pour la transition, souligne Mme Isoard. Pourtant, le cuivre sert à de multiples usages au-delà de l'électrification comme l'électronique, l'aérospatiale et l'armement. C'est dans ce contexte que la journaliste est partie à la recherche de mines responsables. Elle s'est documentée, elle a visité des sites d'exploitation, elle a consulté des experts de ce secteur d'activité et elle a rencontré des travailleurs, tout cela en France, au Maroc, au Suriname et en Espagne. Malgré les engagements publics et les certifications de plusieurs entreprises minières envers des pratiques durables et les droits de la personne, Célia Isoard n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait. Au cours de cette quête, elle a publié une enquête pour le média Reporter au sujet d'une mine marocaine mise en avant par les constructeurs automobiles BMW et Renault comme étant du cobalt responsable. Or, il s'est avéré que cette mine empoisonne les sols à l'arsenic, dessèche la nappe phréatique et cause des maladies aux travailleurs. La mine industrielle est un modèle qui est voué à avoir des impacts catastrophiques à moyen et à long terme. Ce n'est pas parce que ces entreprises sont méchantes et malhonnêtes, mais parce qu'il y a des contraintes physiques dans cette activité. Elle nécessite énormément d'eau et d'énergie. Elle occupe beaucoup d'espace et elle déforeste. Boue toxique et pluie d'oies sauvages. Dans son livre, Mme Isoard décrit de nombreux ravages et risques environnementaux qui sont matière à donner froid dans le dos. Les premières pages sont notamment consacrées au phénomène du Berkeley Pit, une ancienne mine de cuivre devenue un lac acide causant la mort de milliers d'oies sauvages. Rappelons-nous la rupture de digues de résidus de la mine de cuivre et d'or de Mount Pawley en 2014, lors de laquelle 17 millions de mètres cubes d'eau chargée en métaux toxiques ont irréversiblement contaminé de très grandes superficies et des ressources en eau d'une valeur inestimable, a-t-elle souligné au sujet de cette catastrophe canadienne. Or, des bassins de résidus de même type, il y en a 172 rien qu'en Colombie-Britannique et les boues toxiques qui y sont stockées représentent l'équivalent d'un million de piscines olympiques. Malheureusement, avec le chaos climatique, les risques de rupture accidentelle de ces barrages sont décuplés. Elle considère d'ailleurs que le Canada est au cœur de la tourmente extractiviste. Les gouvernements du Québec et du Canada soutiennent généralement que le développement minier sur leur territoire respectera des normes environnementales plus strictes, en plus d'utiliser de l'énergie plus propre. Cet argument justifierait-il l'implantation de nouvelles mines? Non, estime Mme Isoard. Aucun État puissant industriellement ne relocalise sa production minière ni ne s'engage à cesser d'importer des métaux. Ce qui est en train de se passer, c'est que les besoins en métaux explosent dans tous les domaines et que les entreprises minières et les États se sont mis d'accord pour créer des mines partout où il est possible d'en créer. Ce n'est pas parce qu'on accepte une mine dans sa région qu'il n'y aura pas de mine pour la même substance à l'autre bout du monde. Il est peu probable, par exemple, que des batteries produites au Québec s'affranchissent totalement des métaux importés. Pour une décroissance minérale. Célia Isoard estime plutôt qu'une grande partie des mines du monde devrait fermer, puisqu'elles sont situées dans des zones menacées par la sécheresse. Nous n'aurions alors pas d'autre choix que de nous engager dans une désescalade de la consommation de métaux, une remise en cause radicale de la manière dont on vit, Selon cette vision, il faudrait contraindre l'ensemble du secteur industriel à se limiter, tout comme on lui demande de réduire ses émissions de GES. Les métaux devraient être réservés aux usages alors déterminés comme étant essentiels. Les immenses centres de données, les avions, les VUS électriques et les canettes d'aluminium sont-ils nécessaires à la vie humaine? Il faut arrêter de se laisser intimider par le déterminisme technologique, soit l'idée que le progrès suit cette direction et qu'on ne peut rien changer. Ce sont des choix idéologiques et politiques très précis, avec du financement public très important. Il faut cesser de penser que les technologies sont inéluctablement déployées et qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'était La ruée minière au 21e siècle, le mensonge de la transition énergétique. Un texte de Roxane Léouzon, paru le 5 février 2024 dans Le Devoir.
Jeunesse d'aujourd'hui, un texte de Marc Cassivi, paru le 1er février 2024 dans La Presse. Dans un extrait vidéo de la balado Contact de Stéphane Bureau, qui circule sur les réseaux sociaux depuis décembre, on voit le cinéaste Denis Arcand raconter que des étudiants en scénarisation ont demandé son renvoi après un seul cours. Arcand leur avait demandé de prendre un grand roman, n'importe lequel, dit-il, et d'en adapter un chapitre pour le cinéma. Il a donné en exemple Anna Karénine, Madame Bovary, Guerre et paix, Le rouge et le noir. Arcand raconte qu'un étudiant a levé la main et a demandé « Les noms que vous venez de dire, c'est des livres, ça ?» Personne dans la classe n'avait lu un seul de ces romans, souligne Arcand, ni ceux d'Hemingway ou de Faulkner. Il y a eu un silence de mort lorsqu'il a été question de l'étranger. Le professeur a décidé d'annuler le reste du cours ainsi que celui de la semaine suivante afin de permettre à ses étudiants de chercher un objet en papier avec des lettres dessus. Puis ça va être marqué « roman », raconte Arcand, avec son ironie habituelle. Les étudiants, explique le cinéaste à Stéphane Bureau, ont immédiatement exigé son renvoi auprès de la direction. « Nous, on est ici pour écrire. On n'est pas ici pour lire », lui ont-ils dit. C'est ainsi que se termine l'extrait, qui fait la promotion de Contact. Sur les réseaux sociaux, certains ont pris la défense des étudiants et condamné une forme de condescendance perçue chez le maître. Mais la plupart ont dénoncé la paresse intellectuelle de cette génération de petits lapins fragiles, de calinours fainéants et de flocons de neige adeptes de la culture du bannissement. Ils n'auraient pas été rassurés par la suite immédiate de l'entrevue. « On a payé pour écrire. » « On n'a pas payé pour lire », ont ajouté les étudiants selon Arcand. Le cinéaste regrette qu'il n'y ait pas eu entre eux de dialogue ni de référent culturel commun. « On ne connaît plus l'œuvre d'Aristote ni de Shakespeare », dit-il. « Peut-être que nos référents à nous sont d'une autre époque et qu'il y en a aujourd'hui d'autres », lui répond Stéphane Bureau. « Les Kardashians, peut-être », pourrait être une forme de référence. Comme caricature de la jeunesse d'aujourd'hui, génération du reste, dépeinte comme inculte dans Testament, en a fait plus original. Pour la petite histoire, Denis Arcand n'a pas été renvoyé par la direction. Il le précise aussitôt que prend fin l'extrait diffusé sur les réseaux sociaux. Arcand a échappé au camp de rééducation woke et à l'archipel du goulag de la rectitude politique. Il n'a pas été annulé. Il a continué à enseigner, et il est même devenu l'un des plus grands cinéastes de l'histoire du Québec. Même si l'extrait de l'émission Balado n'est pas clair à ce sujet, La jeunesse d'aujourd'hui à laquelle fait référence Stéphane Bureau n'est pas la même que celle de l'anecdote de Denis Arcan. Les étudiants auxquels Arcan fait référence sont ceux de la génération de jeunesse d'aujourd'hui. La populaire émission de Télémétropole. Dans l'entrevue de plus d'une heure, une trentaine de secondes avant le début de l'extrait qui circule depuis décembre 2023, Arcan précise que le cours de scénarisation dont il parle a été donné à l'UQAM en 1973. À l'époque, Denis Arcan avait à peine 30 ans et Stéphane Bureau n'avait pas 10 ans. Ses élèves qui n'avaient pas lu Camus et qui n'avaient pas l'intention de lire Tolstoï ont tous aujourd'hui plus de 70 ans. Ils appartiennent à une génération qui, ironiquement, reproche parfois aux jeunes d'être trop paresseux et égoïstes, pas assez curieux et polis, ou alors trop revendicateurs et réfractaires à l'autorité. Certains d'entre eux sont d'anciens marxistes-léninistes qui voient aujourd'hui des « woke » dans leur soupe. Sans doute qu'à l'époque, ils trouvaient scandaleux qu'on ait au coton, documentaire co-réalisé en 1970 par Arcan, ait été censuré par l'ONF en raison de pression de l'industrie du textile. Il n'a été diffusé qu'en 1976. Cette histoire nous rappelle qu'il y a des dangers à tirer des conclusions hâtives et à se fier à un extrait sorti de son contexte. Elle illustre aussi des préjugés, parfois inconscients, qui laissent croire que c'était mieux avant. Elle m'a fait penser à un récent reportage de ma collègue Judith Lachapelle qui commençait par le témoignage d'un employeur québécois qui reprochait aux jeunes de ne pas vouloir travailler, publié dans la presse en 1975. Plus ça change, plus c'est pareil. De tout temps, selon les experts interviewés par ma collègue, les plus vieux ont eu tendance à dénigrer les plus jeunes. Les passionnés de lecture trouvent que les jeunes lisent moins, constate Judith. Elle cite les conclusions de chercheurs qui démontrent que les gens ont à la fois tendance à être particulièrement critiques des jeunes d'aujourd'hui à propos de choses dans lesquelles ils excellent eux-mêmes et à appliquer leur propre expérience à tous les individus de leur génération. J'ai lu Stendhal, Camus, voire Sartre et Malraux à l'adolescence, en n'imaginant pas un instant que mes camarades de classe en faisaient autant. En revanche, je regrette l'époque où, comme en 1973 avec Réjane Padovani, Denis Arcan dénonçait courageusement dans ses films ceux qui ont le pouvoir et non pas ceux qui le contestent. C'était mieux avant? Parfois oui. C'était « Jeunesse d'aujourd'hui », un texte de Marc Cassivi, paru le 1er février 2024 dans la presse.
L'activité physique ne compense pas les méfaits des boissons sucrées sur le cœur. Un texte de Jean-Benoît Legault, paru en 2024 dans Le Devoir. Même la pratique hebdomadaire recommandée de 150 minutes d'activité physique ne suffit pas à compenser les risques de maladies cardiovasculaires associées à la consommation de boissons sucrées, prévient une nouvelle étude menée par l'École de santé publique TH Chan de l'Université Harvard, à laquelle a participé un chercheur de l'Université Laval. Pourtant, a rappelé le professeur Jean-Philippe Drouin-Chartier, qui enseigne à la faculté de pharmacie de l'institution québécoise, la stratégie de marketing de ces boissons consiste fréquemment à les présenter dans un contexte d'activité physique. Donc, ça laisse un peu croire que la consommation de boissons sucrées n'est pas nécessairement dommageable pour la santé quand on fait de l'activité physique et qu'on est actif, a expliqué le professeur Drouin-Chartier. C'est vraiment cette hypothèse-là qu'on voulait évaluer avec notre étude. Les scientifiques ont utilisé deux cohortes totalisant environ 100 000 adultes suivis pendant une trentaine d'années. ils ont constaté que la consommation de seulement 2 boissons sucrées par semaine était associée à un risque de maladie cardiovasculaire élevé, et ce, peu importe le niveau d'activité réalisé en parallèle. Tout au plus, précise l'étude, l'activité physique réduisait de moitié le risque associé à la consommation de boissons sucrées. On savait déjà que la consommation de boissons sucrées est associée à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires, a rappelé le professeur Drouin-Chartier, et la nouvelle étude vient confirmer la chose. On savait aussi que l'activité physique avait un effet protecteur face à ces maladies. Mais quand on met les deux ensemble, c'est intéressant de voir que chez les personnes qui consomment 2 portions et plus par semaine de boissons sucrées, même si elles rencontraient les recommandations de 150 minutes d'activité physique par semaine, que l'effet de protecteur de l'activité physique n'était pas suffisant pour complètement atténuer les effets néfastes des boissons sucrées, a-t-il résumé. Les chercheurs soulignent que la fréquence de consommation étudiée, soit 2 fois par semaine, était relativement faible. Il tombe sous le sens que le risque de maladie cardiovasculaire serait encore plus élevé en présence d'une consommation quotidienne. On peut aussi supposer, sans grand risque de se tromper, que le pourcentage de la population qui respecte la recommandation de 150 minutes d'activité physique par semaine est plutôt faible. Le message n'est certainement pas que l'activité physique est inutile, a dit le professeur Drouin-Chartier. Le message est que ce n'est pas suffisant pour annuler l'effet des boissons sucrées. Dans l'étude, la consommation de boissons sucrées artificiellement ou diète, souvent présentée comme une solution de rechange aux boissons sucrées, n'était pas associée à un risque de maladie cardiovasculaire plus élevé. Mais le verre d'eau va toujours être la meilleure boisson, a dit le chercheur. Les boissons sucrées étudiées dans le cadre de cette étude comprenaient notamment les boissons gazeuses et douces, avec ou sans caféine, la limonade et les cocktails aux fruits. Les boissons énergisantes n'ont pas été considérées spécifiquement, mais elles ont aussi tendance à être sucrées. Les boissons sucrées constituent la plus grande source de sucre ajouté dans l'alimentation nord-américaine, a-t-on rappelé par voie de communiqué, et leur consommation est associée à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires, principale cause de mortalité dans le monde. Les conclusions de cette étude ont été publiées par The American Journal of Clinical Nutrition. C'était « L'activité physique ne compense pas les méfaits des boissons sucrées sur le cœur ». Un texte de Jean-Benoît Legault, paru en 2024 dans Le Devoir.